Les Racines du Ciel, une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar, réalisée par Véronique Villa, préparée par Marie Dalquier, avec à la technique Philippe Palares. Aujourd'hui, je reçois André Comte-Sponville pour parler de l'amour et de la sexualité. André Comte-Sponville, bonjour.
Bonjour.
J'ai le grand plaisir de vous accueillir une nouvelle fois aux Racines du Ciel. Je rappelle que vous êtes philosophe. Vous avez publié une vingtaine d'ouvrages, dont votre traité du désespoir et de la béatitude, le petit traité des grandes vertus, un dictionnaire philosophique aux éditions des presses universitaires de France. Et votre dernier livre vient de paraître chez Albin Michel, « Le sexe ni la mort ». Alors, première question, que veut dire ce titre ?
Ce titre est une allusion explicitée, bien sûr, dans le livre, à l'une des maximes les plus célèbres de La Rochefoucauld : le soleil ni la mort ne se peuvent regarder fixement. Et lorsque des médecins sexologues m'ont demandé une conférence sur la philosophie de la sexualité, ils m'ont demandé un titre, et le titre qui m'est venu pensant à La Rochefoucauld, c'était en effet « Le sexe ni la mort ». Pourquoi ? Parce que, non pas bien sûr qu'on ne puisse pas regarder le sexe fixement, dans notre vie érotique, ça nous arrive heureusement, de regarder le sexe de l'autre fixement, mais on ne peut pas le regarder sans trouble. On ne peut pas le regarder tranquillement. On ne peut pas le regarder sans être à la fois réchauffé et ébloui, et un peu comme par le soleil. Bref, l'idée du titre, c'est que le sexe ni la mort ne se peuvent regarder sans trouble. Alors la mort, on comprend bien pourquoi. J'avais envie de comprendre pourquoi. Le sexe, lui non plus, ne pouvait pas se regarder sans trouble, et c'est l'objet au moins de l'un des trois textes de ce livre.
Oui, parce que c'est un livre qui est construit autour de trois essais qui à la fois sont distincts mais dialoguent entre eux, évidemment, puisque le thème de l'amour est présent partout. Alors, sur cette question du sexe qu'on ne peut pas regarder en face, est-ce que vous iriez jusqu'à dire, comme le dit Freud par rapport à la mort, qu'on est dans un déni inconscient face à la mort? Pourquoi le sexe nous trouble? On n'est pas devant un déni de la sexualité. Qu'est-ce qui dans le sexe, qu'est-ce qui dans la sexualité nous trouble à ce point-là et nous met mal à l'aise ou nous empêche de le regarder dans toutes ses dimensions?
Nous trouble et nous fascine et nous réjouit. Alors moi, ce que je crois, c'est qu'une partie du charme, de la force, de la sexualité, outre la force du plaisir qu'elle peut nous procurer, mais tient au fait que la sexualité, c'est en nous la partie la plus animale, la moins civilisée. Vous savez, ma bête, ça peut être un mot d'amour. Si une femme vous murmure à l'oreille pendant que vous faites l'amour, ma bête, vous le prendrez évidemment pour un mot d'amour, vous aurez raison. Mais c'est un mot d'amour d'autant plus troublant que justement, vous n'êtes pas une bête. Autrement dit, ça n'est troublant d'être une bête que pour un être humain. Voilà. Et donc l'érotisme, la sexualité nous confronte à notre vraie nature qui est double. Nous sommes assurément des animaux. Homo sapiens sapiens, c'est une espèce animale parmi d'autres. Mais nous ne sommes pas des bêtes. Nous sommes des animaux doués d'esprit. D'où une tension. Eh bien, la sexualité nous confronte perpétuellement, je dirais voluptueusement, à cette tension en nous, entre notre partie la plus animale, la plus bestiale, la plus amorale, voire parfois la plus immorale, comme dirait Kant, on en reparlera, et puis ce que nous sommes par ailleurs, à savoir de gentils garçons, d'honnêtes femmes, pleins de morale et de respect les uns pour les autres. Parce qu'au fond, vous savez, moi j'ai le sentiment qu'on est passé en quelques décennies d'une erreur à une autre. La première erreur, me semble-t-il, avait duré plusieurs siècles, c'est-à-dire que pendant 20 siècles d'Occident chrétien, pour résumer à très gros traits et pour caricaturer quelque peu, mais malgré tout, le sexe, c'était mal. C'était une espèce de péché, y compris entre époux, disait saint Augustin, péché véniel, mais c'est un péché de faire l'amour, sauf quand on le fait pour faire des enfants. Et c'était évidemment une erreur que de penser cela. Mais il me semble que à partir des années 60 du XXe siècle, on est tombé dans une autre erreur inverse, qui consistait à penser que non seulement le sexe n'est pas un péché, mais que le sexe, au fond, n'est qu'un loisir innocent, que faire l'amour, c'est à peu près comme boire un verre d'eau ou un verre de vin. Eh bien non, Ce que je crois, moi, c'est qu'assurément, le faire l'amour, ça n'est pas en soi un péché, mais ça n'est pas non plus un loisir innocent, parce qu'il y a bien une espèce de contradiction, ou en tout cas de tension, entre ce que la morale nous impose, à savoir traiter l'autre comme un être humain, comme une personne, comme une fin en soi, comme dit Kant, c'est-à-dire lui manifester du respect. Et ce que la sexualité suscite en nous, à savoir le trouble délicieux de traiter l'autre, non pas comme une fin, mais comme un moyen, non pas comme un sujet, mais comme un objet, non pas comme une personne, mais comme une bête. Je dirais que c'est justement parce qu'il y a quelque chose d'amoral, voire d'immoral au moins, dans sa racine, dans la sexualité, que c'est bon à ce point. Parce que traiter l'autre comme un moyen, moralement, ce n'est pas bien, Kant a raison, mais sexuellement, qu'est-ce que c'est bon ?
Oui, effectivement, et vous le dites très justement, ça peut être source d'une jouissance perverse, que de, c'est toute la question de Sade par exemple, que d'utiliser l'autre comme un objet parce qu'on transgresse quelque chose de fondamental.
Voilà, il y a de la transgression, ce qu'a dit Bataille, au fond l'érotisme c'est la transgression. Alors je montre dans mon livre que c'est une définition trop courte, trop simple, ça n'est pas que ça, mais il y a en effet une part de transgression dans tout érotisme, dans le fait de traiter l'autre comme un moyen, comme un objet, ou de s'offrir à lui comme un moyen et comme un objet. Parce que ça vaut aussi, bien sûr, de façon réflexive à la première personne.
Et beaucoup de fantasmes sexuels tournent autour de ça, on le sait bien, on le voit dans la pornographie, etc. Donc là, est-ce qu'on peut dire que ce sentiment d'une transgression, ce sentiment qu'on ne doit pas traiter l'autre comme un objet, est-ce que c'est le fruit d'une culture ? Est-ce que c'est le fruit finalement d'une morale sociale, comme beaucoup le disent ? Ou est-ce que c'est quelque chose de profondément inscrit dans l'être humain ?
Non, moi je crois que c'est bien davantage que le fait d'une culture particulière. J'en veux pour preuve au fond que dans toutes les civilisations, y compris dans les peuplades qui vivent nues, les humains se cachent pour faire l'amour. Ce que ne fait aucun autre animal, même pas les grands singes,
oui,
si vous voulez.
On voit que ça
autrement
gêne
dit,
pas, hein.
C'est pas la nudité le problème. Le problème, c'est jouir de l'autre. Le problème, c'est cette intimité sans égale, bien sûr, que nous permet l'acte sexuel. Le problème, c'est pouvoir consommer l'autre. Et Kant le dit, au fond, si on voulait faire une analogie, l'analogie la meilleure avec l'acte sexuel, c'est celui de l'anthropophagie. Or, évidemment, l'anthropophagie, personne n'accepterait de la pratiquer. Et pourtant, la sexualité, mais encore une fois, délicieusement, nous offre cette occasion exceptionnelle, malgré sa banalité. Parce que le plus étonnant, au fond, vous parlez des films porno qui sont souvent atroces, de bêtises, de violences, de vulgarité, de misogynie. Mais pas toujours. Il arrive, par exemple, sur Internet, qu'on voit des films porno amateurs, vous voyez un homme, une femme en train de faire l'amour devant une caméra en plan fixe. Ce qui est l'acte le plus banal de l'humanité, puisque par définition, il est aussi vieux que l'humanité elle-même. C'est filmé platement, le contenu est absolument banal, et pourtant, ça vous prend, ça vous saisit, ça vous trouble. Et c'est très étonnant que cet acte infiniment banal dans sa réalité objective ne soit jamais vécu banalement. C'est-à-dire que celui qui me dit qu'il voit un film porno en étant parfaitement tranquille, serein et en repos, je ne pourrais que dire, bah, écoutez, sincèrement, nous ne sommes pas pareils. Parce que moi, les films porno que je ne fréquente pas tous les jours, mais notamment pour celui-là, j'en ai vu plusieurs, ça me fait effectivement de l'effet. Parce que c'est l'acte le plus banal et c'est l'acte le plus troublant à nouveau, parce que c'est un acte à la fois absolument animal, absolument humain, et le fait d'être à la fois un animal et un être humain, c'est le mystère, le secret, la singularité de notre espèce.
Tout à fait, là ça me fait penser à une question très d'actualité, puisqu'on parle du porno, je ne pensais pas spécialement en parler, mais je trouve que j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Il y a de plus en plus d'études qui sont faites sur les jeunes, vous avez des enfants, bon ils ont un peu grandi maintenant, mais vous savez ce que c'est, on sait que 83% des enfants de 10 à 13 ans ont déjà vu des films porno sur Internet, c'est très facile, maintenant ils peuvent les voir sur leur smartphone, ce qui fait que les parents n'ont plus aucune censure possible. Qu'est-ce que vous pensez du fait que des enfants, des préadolescents, soient comme ça, qu'on découvrent, on va dire, la sexualité à travers des films porno ?
Ben, je trouve ça à la fois dommage et inquiétant. Comprenez-moi bien, je ne suis pas contre le porno en tant que tel. Qu'est-ce que c'est que le porno ? C'est la représentation crue de la sexualité.
Oui, sans amour, sans sentiments, voilà,
mais
sans émotions.
Tout, pourquoi pas ? Sauf que, pour des raisons, je crois, commerciales, mais pour des raisons aussi qui nous disent quelque chose de la sexualité masculine spécialement. Et ce qu'il y a souvent d'intrinsèquement violent, voire méprisant dans la sexualité masculine, beaucoup de ces films porno sont par ailleurs des films violents, des films misogyne. Frédéric Joigneau, qui n'est pas un pudibon, qui était l'ancien rédacteur en chef d'Actuel, si mes souvenirs sont bons, qui est lui-même amateur de pornographie, a écrit un livre qui s'appelle « La pornographie de la démolition ». Et il montre, en effet, il a raison, que beaucoup de films pornographiques n'ont pour finalité apparente que de démolir les femmes. Découvrir la sexualité dans ce contexte-là, quand on a 12, 13 ou 15 ans, c'est évidemment effrayant. D'autant plus que personne ne peut s'y reconnaître. Parce que les jeunes filles, on leur présente une image de la femme tellement dégradée et dégradante qu'elles ne peuvent pas avoir envie de vivre ça. Quant aux jeunes adolescents, aux jeunes hommes, aux jeunes garçons, on leur montre des types montés comme un taureau qui donnent le sentiment, peut-être en raison du montage en l'occurrence, qu'ils ont des érections qui n'en finissent pas. Les jeunes hommes ne se sentent pas à la hauteur. Si bien que vous avez d'un côté des jeunes filles effrayées par l'image dégradée de la femme qu'on leur offre et des jeunes hommes humiliés par des bêtes de sexe dont ils n'ont pas, si j'ose dire, les capacités physiques. C'est décourageant pour tout le monde. Alors, il ne s'agit pas d'interdire le porno, mais ça veut dire qu'il faut réfléchir effectivement aux messages que nous adressons à nos jeunes gens.
Et puis, alors, ce que vous dites dans votre livre, qui est un élément essentiel, le porno dissocie totalement effectivement le caractère animal de la sexualité de sa dimension humaine la plus profonde, qui est le lien qui existe, le sentiment, l'amour qui relie les personnes. Et ce que vous montrez dans votre livre, c'est qu'une sexualité profondément humaine, il y a effectivement un lien d'amour entre les deux êtres qui pratique l'acte sexuel.
Ah, c'est le plus souhaitable, mais cela dit, le sous-titre du livre que vous évoquez, donc, c'est « Trois essais sur l'amour et la sexualité ». Autre clin d'œil à Freud, en l'occurrence, au livre peut-être le plus célèbre de Freud, les fameux « Trois essais sur la théorie de la sexualité ». Mais j'étais très content d'écrire un texte sur l'amour et un autre texte sur la sexualité, parce que ce sont deux choses différentes. Alors bien sûr qu'on peut fort heureusement vivre ensemble, et c'est sans doute ce qu'on peut vivre de meilleur. Mais enfin, ça reste deux choses différentes. On peut désirer sexuellement, très fortement, un homme ou une femme dont on n'est pas du tout amoureux. Et on peut être fortement amoureux d'un homme ou d'une femme qu'on ne désire pas spécialement, si vous voulez. Si bien que c'est justement parce que le sexe et l'amour sont deux choses différentes que leur rencontre est à ce point agréable, mais aussi que leur articulation, notamment dans la durée, est à ce point complexe et difficile. D'autant qu'il y a autre chose, c'est que, au fond, l'amour nous ouvre à l'autre dans sa singularité. Sauf exception très rare, on n'est passionnément amoureux que d'une seule personne à la fois et qu'on a tendance à élever au pinacle. Elle devient incomparable, merveilleuse, ce que Stendhal appelle la cristallisation. On lui prête toutes les qualités du monde. Alors que le sexe, au contraire, nous ouvre à l'autre, je dirais, dans son indétermination anonyme. On n'est amoureux que d'une seule femme, que d'un seul homme, mais un homme qui se promène dans les rues de Paris peut rencontrer dans une journée plusieurs dizaines de jeunes femmes, de jeunes filles, qu'il trouve extrêmement désirables. Et si bien qu'entre cette indétermination du sexe, qui bien loin d'élever l'autre au pinacle, a plutôt envie de le rabaisser justement à son statut d'objet, de chose, de bête si vous voulez, et l'amour au contraire qui le célèbre dans sa singularité merveilleuse, à nouveau cette tension-là fait partie et du trouble et de la force d'émotion de la chose.
Tout à fait, donc vous montrez bien évidemment que c'est de registres différents, mais en même temps ce que je veux dire c'est que vous soutenez l'idée qu'une sexualité vécue dans l'amour va plus loin, c'est-à-dire qu'elle apporte probablement quelque chose de plus profond, même une jouissance plus grande que simplement une consommation du corps de l'autre immédiate sans sentiment.
Bien sûr, hein, la chair est triste quand il n'y a que la chair. Voilà, et c'est vrai que faire l'amour sans amour, c'est possible, je pense. Ça nous est arrivé à tous parfois, pour les gens de notre génération. Mais d'évidence, ce n'est pas ce qu'on a vécu de meilleur. Et je dirais, ce n'est pas ce qu'on a envie de vivre. Je le raconte dans mon livre, il y a quelques années, j'avais pendant quelques semaines posé à tous les amis que je rencontrais la question suivante. Qu'est-ce que tu préférerais vivre ? Une histoire d'amour sans sexe ou une histoire de sexe sans amour ? Or, tous mes amis me répondaient qu'ils préféraient vivre les deux à la fois, moi aussi. Cela dit, ce qui m'a frappé, c'est que tous mes amis hommes, si je leur disais, mais oui, s'il faut absolument choisir l'un ou l'autre, qu'est-ce que tu préfères ? Tous mes amis hommes, sans exception, m'ont répondu « Je préférerais une histoire de sexe sans amour ». Et toutes mes amies femmes, sauf une, m'ont répondu « je préférerais une histoire d'amour sans sexe ». Si bien que l'articulation entre ces deux domaines, le sexe et l'amour, est difficile pour tout le monde, mais d'autant plus difficile qu'il y a souvent, alors pour des raisons qui sans doute touchent à la culture au moins autant qu'à la nature, mais la culture fait partie du réel, il y a aussi une asymétrie entre les deux sexes ou entre les deux genres, c'est-à-dire que pour la plupart des hommes, l'amour est au service du sexe. Alors que pour beaucoup de femmes, la plupart des femmes, me semble-t-il, c'est l'inverse. Le sexe est au service de l'amour. Moyennant quoi, ils peuvent vivre ensemble les deux à la fois, mais l'asymétrie demeure. Et c'est pour ça qu'on a besoin de temps. Parce qu'il faut dire que non seulement c'est meilleur de faire l'amour quand on s'aime, mais c'est meilleur de faire l'amour dans la durée que, si j'ose dire, le coup d'un soir. Et c'est pourquoi une partie de mon livre, au fond, c'est aussi pour sauver le couple. Parce que j'en ai un peu assez de tous ces discours sur la passion amoureuse, tous les films, les romans qu'on lit là-dessus. Une passion amoureuse qui, dans sa violence extrême, dure en vérité quelques mois. Et on ne dit presque rien sur les années de vie à deux. Alors c'est vrai que souvent c'est difficile. C'est vrai que pour beaucoup de couples, une fois que la passion s'étiole, une fois que le manque disparaît, il ne reste plus que l'ennui. Et on est tombé, comme je lis dans mon livre, de Platon en Schopenhauer. Sauf que Schopenhauer sous-estime un fait très important, c'est qu'il existe aussi des couples heureux. Or, un couple heureux, ça n'est pas un couple où un homme et une femme vivant ensemble depuis 20 ou 30 ans sont aussi amoureux l'un de l'autre qu'au premier jour. Arrêtons de rêver. Un couple heureux, ça n'est pas un couple qui a trouvé le secret pour faire durer indéfiniment la passion, pour manquer de celui qui est là, qui ne manque pas. C'est évidemment impossible. Un couple heureux, c'est un couple où l'homme et la femme, ou bien deux hommes, deux femmes éventuellement, ont réussi à inventer ensemble une autre façon d'aimer, qui n'est plus le manque, mais la puissance, comme dirait Spinoza. On passe de Platon en Spinoza, qui n'est plus la passion, mais l'action, qui n'est plus l'état amoureux, mais l'acte d'aimer. Vous connaissez la belle formule de Denis de Rougemont, « Être amoureux est un état, aimer un acte ».
Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir ses bras, son ombre est celle d'une croix. Et quand il veut serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux. Sa vie, elle ressemble à ces soldats sans armes qu'on avait habillés pour un autre destin. À quoi peut leur servir de se lever matin? Eux qu'on retrouve au soir, des armées incertains, dites ces mots, ma vie, et retenez vos larmes. Il n'y a pas d'amour heureux. Mon bel amour, mon cher amour, ma déchirure, je te porte dans moi comme un oiseau blessé, et cela sans savoir nous regarde passer. Répétant après moi ces mots que j'ai tressés, et qui pour tes grands yeux tout aussitôt moururent. Il n'y a pas d'amour heureux. Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Que pleurent dans la nuit nos cœurs à l'unisson, ce qu'il faut de regret pour payer un frisson. Ce qu'il faut de malheur pour la moindre chanson, ce qu'il faut de sanglots pour un air de guitare. Il n'y a pas d'amour heureux.
Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel en compagnie aujourd'hui d'André Comte-Sponville qui nous parle de l'amour et de la sexualité à l'occasion de la sortie de son livre Le sexe ni la mort aux éditions Albin Michel. Alors André Comte-Sponville, vous avez choisi ce premier morceau de Louis Aragon mis en musique et chanté par Georges Brassens. Lélie Anvar, bonjour.
Bonjour.
Alors, André Comte-Sponville nous a parlé de la différence entre l'homme et la femme, hein, qui, par rapport à la sexualité et à l'amour, n'ont pas tout à fait les mêmes objectifs. Je vois que vous avez lu avec passion son livre, qui est tout annoté. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce que nous venons déjà d'évoquer ?
Ce que vous venez de dire, et qui effectivement résume ce que vous dites dans votre livre, me fait penser au fait que finalement vous vous attaquez à deux questions, et vous le dites vous-même, qui sont très difficiles pour un philosophe. Et vous reconnaissez que finalement la philosophie se trouve en difficulté face à ces deux questions que sont l'amour et la sexualité, et peut-être pour la même raison, parce que l'amour non plus n'est pas si facile à regarder en face, dans sa nudité même. Et d'ailleurs, vous montrez que les philosophes sont quand même très très gênés quand il s'agit de parler de sexualité. Alors, quand ils parlent d'amour, ils le font un peu à la Socrate, ils transmuent, ils subliment l'amour humain en un amour du beau, du vrai, et, en une recherche au fond de la vérité. Mais quant à parler de l'amour et de la sexualité au quotidien, c'est une chose très difficile, que vous faites fort bien. Mais je dirais que, étrangement, quand vous le faites, pour moi, vous sortez de la philosophie et vous parlez plus en sage, plus en homme expérimenté, en quelqu'un qui a vécu ces choses. Et c'est ça qui m'émeut le plus, au fond, dans ce que vous écrivez. C'est qu'à un moment, vous dites, finalement, le philosophe, devant cette expérience incroyable qu'est l'amour, n'a pas de mots. Il ne peut vous transmettre qu'une émotion. Vous dites même à un moment, il n'y a peut-être que les poètes pour parler bien de ces choses-là. C'est sans doute pour ça que vous avez choisi ce poème d'Aragon. Que vous analysez longuement en disant finalement que le bonheur est impossible en amour, mais vous vous empressez d'ajouter qu'il est quand même possible et que l'expérience le prouve, ce qui nous rassure évidemment. Et alors, c'est pourquoi j'ai pensé, évidemment, j'ai pensé à des dizaines de textes que nous ne pourrons pas lire ici, mais voilà, pour résumer en fait votre position par rapport à cette expérience qui est celle de l'amour, et qui pour vous est quand même inséparable de l'expérience du bonheur, vous me direz si j'ai tort de vous lire comme ça, j'ai choisi la grande tirade très connue de Perdican dans « On ne badine pas avec l'amour » de Musset. Juste pour resituer rapidement, Perdican est donc amoureux de Camille, qui elle a passé un certain temps dans un couvent, et au couvent, les femmes l'ont prévenu contre les hommes. Des femmes qui ont souffert de l'infidélité des hommes l'ont prévenu contre les hommes. Et bien qu'elle aime Perdican, elle va finir par le perdre parce que, justement, elle ne peut pas faire le pas, prendre le risque de l'amour. Et Perdican, désespéré de la voir ainsi imperméable à cet amour qu'il lui propose, lui dit cette tirade qui est devenue une des tirades les plus célèbres dans le théâtre français. Adieu Camille, retourne à ton couvent. Et lorsqu'on te fera de ces récits hideux qui t'ont empoisonné, réponds ce que je vais te dire. Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux et lâches, méprisables et sensuels. Toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées. Le monde n'est qu'un égout sans fond, où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fange. Mais il y a au monde une chose sainte et sublime, c'est l'union de deux de ces êtres si imparfaits et si affreux. On est souvent trompé en amour, souvent blessé et souvent malheureux. Mais on aime, et quand on est sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière et on se dit « J'ai souffert souvent, je me suis trompée quelquefois, mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu, et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui. »
Alors, André Comte-Sponville, qu'avez-vous à répondre à différentes remarques qu'a fait Lélie Envar et à Musset ?
Alors d'abord que c'est vrai que sur l'amour, et encore plus sur la sexualité, les philosophes sont souvent décevants. Parce que l'amour, commence par la passion. Or, les philosophes se méfient de la passion parce qu'ils sont du côté de la raison, je dirais presque professionnellement. Et parce que le sexe les renvoie à leur corps, à leur animalité, et que les philosophes, spécialement occidentaux, préfèrent s'occuper de l'âme et de l'esprit. Et si bien qu'il y a un double malaise qui fait qu'en effet, vous avez raison, beaucoup de philosophes sont décevants. Mais un, pas tous, toujours, sur l'amour. Je monte dans le premier texte que Platon, Spinoza et Simone Weil sont extrêmement éclairants sur trois types d'amour différents, qu'on appelait en grec Eros, la passion amoureuse, le manque, philia, l'amitié, y compris dans le couple, y compris ce que Montaigne appelait si joliment l'amitié maritale, l'amitié entre époux, hein, entre amants, enfin agapé, l'amour de charité.
On va y venir.
Oui, on y reviendra, mais sur ces trois notions-là, quelques philosophes, notamment les trois que j'évoquais, Platon, Spinoza, Simone Weil, sont extrêmement éclairants et plus que beaucoup de poètes. Et sur la sexualité, alors c'est vrai que là j'étais encore plus démuni, même si je m'appuie beaucoup sur Feuerbach, sur Schopenhauer, sur Kant, sur Nietzsche, et puis sur Montaigne, qui est quand même l'exception, parce que disons que personne, à mon avis, n'a parlé de la sexualité aussi librement, aussi profondément, aussi merveilleusement que Montaigne. Alors vous me direz, oui, mais Montaigne, il sort de la philosophie. Mais tant mieux, bien sûr, parce que s'il faut s'enfermer dans la philosophie, ça n'est plus la philosophie vraie. C'est du philosophisme, c'est de l'académisme. La philosophie ne vaut qu'à la condition de nous amener à la vie. Ce qui compte, c'est pas la philosophie, c'est la vie. La vie ne vaut qu'à son service, et c'est bien sûr ce que j'essaye pour ma part de faire. Enfin, j'ai dit bien sûr dans ce livre, citant Aragon, il n'y a pas d'amour heureux, mais j'ajoute, ni de bonheur sans amour. Or cette phrase-là, il n'y a pas d'amour heureux, ni de bonheur sans amour, n'est cohérente que si le mot amour n'a pas le même sens dans les deux phrases. Parce que dans la première phrase, il n'y a pas d'amour heureux, ça veut dire il n'y a pas de passion amoureuse heureuse. Pour une raison simple, c'est que la passion amoureuse, c'est le manque. Le bonheur met fin au manque et donc met fin à la passion. C'est pourquoi les histoires d'amour finissent mal en général, comme dit la chanson, parce qu'elles finissent. Elles finissent dans le drame par la séparation, le chagrin d'amour, ou dans le bonheur quotidien, parfois dans l'ennui du couple. Mais en même temps, il n'y a pas de bonheur sans amour, parce que celui qui n'aime rien ni personne, celui qui a perdu la capacité d'aimer, comme disait Freud, n'a plus qu'à se tirer une balle dans la tête, ce que Freud, au fond, dit là encore. Et il faut tenir les deux bouts de la chaîne, être lucide sur la passion amoureuse, alors, la vivre quand elle est là, on ne va pas évidemment s'interdire d'être amoureux, mais savoir qu'en tant que passion, elle ne peut pas durer, et que si on veut que nos amours durent, il faudra passer, comme je disais tout à l'heure, de la passion à l'action, du manque à la joie, bref, comme on dirait en grec, d'eros à philia, c'est-à-dire au fond de la passion amoureuse au couple. Or, quand je dis ça, beaucoup de gens le vivent comme une déperdition. Oh là là, on va s'ennuyer. Mais non, pas du tout. Est-ce que vous ennuyez avec vos meilleurs amis, avec votre meilleur ami? Bien sûr que non. Moi, j'ai dit une fois à mon meilleur ami homme, avec lequel je n'ai aucun rapport sexuel, évidemment, mais je lui disais, tu sais, il est philosophe, je lui disais, tu sais, Schopenhauer écrit qu'on ne cesse de souffrir que pour s'ennuyer. Eh bien, tu vois, quand tu es là avec moi, je ne souffre pas et je ne m'ennuie jamais. Eh bien, voilà, l'homme ou la femme de votre vie, c'est aussi, parfois, ça peut être votre meilleur ami. Or, faire l'amour avec son meilleur ami, avec celui qui vous connaît mieux que personne, celui qui vous aime plus que personne, celui que vous aimez plus que personne, c'est une expérience merveilleuse. Arrêtons de célébrer perpétuellement la passion, arrêtons de mépriser les couples. Ce qu'on peut souhaiter de mieux à une passion amoureuse qui commence, c'est de finir dans un couple heureux.
Lélie Anvar.
Oui, je voudrais tout de même revenir un instant sur Platon. Vous faites une mise au point qui est absolument essentielle à mon sens et vous montrez que cette nostalgie que nous avons de l'âme sœur nous fait croire que Platon a développé le mythe, ce qui n'est pas du tout vrai, évidemment, dans le banquet, c'est Aristophane qui énonce le mythe des moitiés séparées qui veulent se retrouver et qu'en réalité Socrate récuse ce mythe. Et puis, vous nous parlez de la théorie, enfin, en tout cas, de la doctrine de l'amour telle que Diotime l'a transmise à Socrate. Mais vous vous arrêtez là et vous oubliez de nous dire que justement dans le banquet, peut-être ce qui est dit de plus important de l'amour, et je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, c'est pas Socrate qui le dit, c'est finalement Alcibiade. C'est-à-dire c'est précisément pas la philosophie qui nous informe, même sur la philia, puisque finalement ce que Alcibiade dit de Socrate, de l'amour qu'il a pour Socrate, de l'amour que Socrate a pour lui, qui dépasse toutes les catégories qui ont été énoncées dans Le Banquet, c'est une... Il le dit sous une forme de déclaration. Il ne fait pas une doctrine de l'amour. Il dit « je l'aime pour ce qu'il est ». Et à la fin du Banquet, pour moi, on n'est plus du tout dans la philosophie. On a cette image saisissante de Socrate debout dans l'aube alors que tout le monde est abruti par la boisson. C'est le seul qui, ayant bu, est encore éveillé. Et il part comme cela, laissant tous les autres face au soleil de sa propre vérité. Donc c'est une image, à mon avis, éminemment poétique. On n'est absolument plus dans la philosophie.
Oui, mais on n'est plus... Tel que vous le dites, chez Platon, vous avez le droit de préférer le discours d'Alcibiade, mais rappelons que le maître de Platon, ça n'est pas Alcibiade, c'est Socrate. Et qu'à la fin du banquet, Alcibiade arrive complètement saoul, fait une déclaration d'amour passionnelle à Socrate, ça n'est pas du tout la vérité de l'amour selon Platon. Simplement, ce que ça veut dire, c'est que le discours philosophique sur l'amour, le discours de Socrate de Diotime, n'empêche pas de tomber amoureux. Autrement dit, la vie continue, bien sûr. Mais la philosophie est là pour nous aider à comprendre un peu mieux ce que nous vivons, pour être un peu moins dupes de nos illusions, et puis surtout pour essayer de durer. Parce qu'au fond, la grande affaire dans l'amour, c'est pas la passion des premiers jours. C'est facile de tomber amoureux. N'importe quel gamin de 15 ou 16 ans est capable de tomber amoureux, y compris d'une vedette de la chanson qu'il n'a jamais rencontrée. Ce qui est difficile, c'est de durer. Vous savez ce que Paul Éluard appelait si merveilleusement le dur désir de durer. C'est-à-dire le couple, alors marié ou pas, peu m'importe, exclusif ou pas, peu m'importe. Je suis pas là pour donner des leçons de morale aux gens. Ce que je crois pouvoir constater, c'est qu'il y a en nous un dur désir de durer, un désir d'aimer, un désir d'être aimé, mais si possible dans la durée. Et cette durée-là qui est la grande histoire du couple, si vous voulez, ça vaut la peine qu'on y réfléchisse. Or, pour y réfléchir, le discours de Socrate est plus éclairant que celui d'Alcibiade, et puis surtout, le discours de Spinoza est plus éclairant que celui de Platon.
Parlez-nous du discours de Spinoza, justement, parce qu'on a parlé de Platon. Donc,
Platon dit « l'amour est désir et le désir est manque ». Ça vaut le couple à l'échec. Puisque quand on vit en couple, on ne se manque plus puisque l'autre est là. Donc si Platon a raison, si l'amour est désir et si le désir est manque, alors Aragon a raison aussi. Si l'amour est manque, alors il n'y a pas d'amour heureux. Spinoza, en revanche, nous dit que oui, l'amour est désir, là-dessus Spinoza est d'accord, mais non, assurément non, le désir n'est pas manque. Parce que pour Spinoza, le désir est puissance. Puissance de jouir et jouissance en puissance. Attention, j'ai pas dit pouvoir au sens politique du terme, non, puissance. Puissance de jouir et jouissance en puissance, autrement dit puissance exactement au sens où l'on parle très communément de la puissance sexuelle. On en parle surtout pour les hommes, on pourra en parler exactement au même sens. Pour les femmes, la puissance sexuelle, c'est la puissance de jouir et donc ce qui rend la jouissance possible. Pour Spinoza, le désir est puissance et l'amour est joie. D'ailleurs, Aristote l'avait déjà dit, aimer, c'est se réjouir. Et là, vous comprenez que tout s'inverse. Parce qu'autant, si vous donnez raison à Platon dans vos histoires d'amour, si vous ne savez aimer que ce qui vous manque, inévitablement, vous donnez raison aussi à Louis Aragon. Si l'amour est manque Platon, alors Aragon, il n'y a pas d'amour heureux. Si en revanche, c'est à Aristote ou Spinoza que vous donnez raison dans vos histoires d'amour, si aimer pour vous, c'est vous réjouir, alors clairement, Aragon a tort, il n'y a pas d'amour malheureux. Sauf dans le deuil, bien sûr, parce que le deuil, alors, au sens propre, l'autre est mort, ou au sens figuré, il ne vous aime pas, il vous a quitté. Le deuil, recréant tragiquement le manque, vous renvoie brutalement, douloureusement chez Platon. Mais en dehors du deuil, si l'amour est joie, alors il n'y a pas d'amour malheureux. Or, ils ont raison l'un et l'autre. Platon a raison, Spinoza a raison, mais ils ne parlent pas de la même chose. Platon parle de la passion amoureuse, Eros. Spinoza et Aristote parlent de la joie d'aimer. Dans le texte grec d'Aristote, c'est évidemment philia.
Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel. Nous poursuivons notre conversation sur l'amour et la sexualité avec notre invité André Comte-Sponville à l'occasion de la sortie de son ouvrage Le sexe ni la mort, trois essais sur l'amour et la sexualité, sur cet air merveilleux de Mozart dans les Noces de Figaro. Alors, nous avons parlé, André Comte-Sponville, vous avez commencé là, à aborder un peu toutes ces distinctions qu'il faut faire autour du mot amour qui correspond à des réalités très complexes et parfois contradictoires en utilisant les mots grecs qui permettent d'apporter plus de discernement et de précision. On a un peu parlé de l'éros de Platon, de la philia d'Aristote. Il y a aussi le mot agapé qui est un mot utilisé dans le Nouveau Testament. Est-ce que c'est un mot inventé par les chrétiens pour parler de l'amour ?
Non, c'est un mot qu'on ne trouve dans aucun texte grec classique, ni chez Platon, ni chez Aristote, ni chez Épicure, mais qui n'est pas inventé par les chrétiens parce que les premières occurrences connues, mais en vérité très rares, se trouvent dans la traduction en grec de la Bible hébraïque, mais avant l'époque chrétienne, qui s'appelle la Septante.
Et oui, c'est très intéressant. Au 3e siècle avant Jésus-Christ.
Voilà, c'est très intéressant qu'il y ait là une source non grecque, une source juive en l'occurrence.
Qui invente un mot pour parler
de l'amour. Oui, à partir d'un verbe qui lui existait, assez classique, assez banal, agapan, qui signifie aimer, chérir, en un sens assez vague. Mais en vérité, c'est les chrétiens malgré tout qui lui donneront sa plus grande expansion. Agapé, pour désigner, au fond, l'amour que Jésus professait. Voilà. Quand Jésus dit dans les évangiles, aimez-vous les uns les autres, Dieu est amour, aimez vos ennemis. Ça ne peut bien sûr pas être éros. On ne va pas être amoureux de ses ennemis. On ne va pas tomber amoureux du prochain, c'est-à-dire de n'importe qui et de tout le monde. C'est absurde. Ça ne peut pas être philia, l'amitié, parce qu'on choisit ses amis. On ne choisit pas son prochain. Et donc, pour désigner cet amour singulier que Jésus professait, et d'autant plus singulier qu'il se veut universel, les premiers chrétiens ont repris ce mot très rare, mais attesté dans la traduction en grec de la Bible hébraïque, agapé, pour désigner ce qu'on peut appeler, malgré l'apparent pléonasme, l'amour de charité. Autrement dit, l'amour de charité, c'est l'amour qu'on porte non pas à celui ou celle dont on est amoureux, la passion, le manque, non pas à ses amis, ceux qu'on a choisis, ceux qui vous aiment en retour, mais à celui qui est là. Non pas l'humanité qui n'est qu'une abstraction, ça c'est de la philanthropie et ça n'est à mon avis rien au fond, ou un vague idéal un peu fumeux. Non, non, l'amour du prochain c'est l'amour de celui qui est là, quoi qu'il soit et quoi qu'il fasse. Alors c'est un idéal, rassurez-vous, je m'en sens profondément incapable. Vous savez ce que disait si joliment et lucidement Pierre Desproges dans un de ses spectacles. Desproges disait « Jésus nous dit « aime ton prochain comme toi-même ». Personnellement, disait Desproges, je préfère moi-même. Nous en sommes tous là, évidemment. Et pourtant, même si l'amour de charité n'est qu'un idéal, même s'il ne brille que par son absence, il brille malgré tout. Et cet idéal nous éclaire parce qu'il indique au moins une direction vers laquelle on peut au moins essayer d'avancer. Et c'est pourquoi, pour l'athée fidèle que je suis, comme vous le savez, le message évangélique reste malgré tout un message important, un message éclairant.
Mais au fond, est-ce que l'agapé, qui est cet amour qui vient de Dieu, le philosophe peut en parler à partir du moment où dans le discours croyant, celui du Nouveau Testament, il est donné par grâce. C'est un amour qui n'est possible que parce que Dieu l'infuse dans l'âme du croyant.
Bien sûr, mais le
philosophe... Ou du non-croyant d'ailleurs, de
le philosophe, y compris athée, peut essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête des croyants. Et en l'occurrence, nous sommes merveilleusement aidés parce que l'une des plus grandes philosophes du XXe siècle, Simone Weil, avec un W, celle qui est morte à Londres en 1943, a écrit sur cet amour-là, sur Agapé, les plus beaux et les plus profonds textes que je connaisse. Et autant dans la partie sur Eros, je m'appuie surtout sur Platon, dans la partie sur Philia, je m'appuie surtout sur Aristote et Spinoza, dans la partie sur Agapé, je m'appuie essentiellement sur Simone Weil, qui là est d'une profondeur, d'une élévation, d'une beauté sublime.
Par exemple, qu'est-ce qui vous a marqué comme regard que Simone Weil porte sur l'amour agapé, à travers quel type d'expérience ou quel type de discours vous en avez retenu particulièrement, une incarnation?
Peut-être paradoxalement l'éclairage qu'elle apporte sur l'amour de soi. Et donc elle répond par anticipation à Pierre Desproges. Parce que Simone Weil écrit « Aimer son prochain comme soi-même, cela suppose d'abord de s'aimer soi-même comme un prochain ». C'est-à-dire comme n'importe qui. Parce que vous comprenez bien que si nous continuons à nous aimer nous-mêmes comme personne, plus que tout le monde, cet amour passionnel, fusionnel, narcissique, il est évidemment impossible d'aimer son prochain, c'est-à-dire n'importe qui, comme soi-même, qu'on aime comme personne. Et donc, si tant qu'on est dans le narcissisme, Pierre Desproges a raison. Je préfère moi-même. Non pas qu'il s'agisse de ne plus s'aimer. Il y a un amour qu'on se doit à soi-même, disait Blaise Pascal, c'est un amour de charité. Il s'agit de s'aimer pour ce qu'on est, dans sa banalité d'humain. Il s'agit de s'aimer comme n'importe qui. Et là, on passe du message qui paraît fou. Aimer son prochain comme soi-même, je peux pas, c'est une folie, c'est impossible. À ce que j'appelle la grande sagesse des évangiles, qu'est-ce que tu es? Tu es n'importe qui. Eh bien, aime-toi pour ce que tu es. Aime-toi comme n'importe qui, comme un prochain. Et là, tu verras qu'il devient peut-être possible d'aimer n'importe qui comme toi-même.
Et vous, comme athée, vous pensez que cet amour-là est un horizon, c'est-à-dire qu'on doit tendre vers ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas ressentir forcément spontanément, c'est pas, on va dire, c'est pas quelque chose qu'on ressent immédiatement, ça nous est très difficile, mais c'est pour vous une sorte de phare qui éclaire la profondeur ultime à laquelle l'humanité peut accéder.
C'est ça, ça indique une direction, c'est un peu ce que Kant appellerait un idéal régulateur, mais nous en avons une certaine expérience. Parce qu'aimer l'autre tel qu'il est, quoi qu'il soit, quoi qu'il fasse, tous ceux qui ont des enfants l'ont vécu. Oui. On vous met un bébé dans les bras, vous ne savez pas ce qu'il est, ce qu'il fera, vous ne savez rien de lui, et vous l'aimez plus que vous-même. Et ça n'est pas un hasard si Dieu est dit père dans la tradition chrétienne. Il serait dit mère, pour tout vous dire, à mon avis, ça serait encore mieux. Mais ça n'est pas un hasard parce que l'amour parental est le seul amour qui soit inconditionnel et non pas proportionné à la valeur de son objet, mais donnant de la valeur à son objet. C'est l'amour créateur de valeur. Et donc, nous en avons une expérience très limitée parce que nous aimons nos enfants, mais beaucoup moins évidemment les enfants des autres. Mais voyez, il y a au point de départ cette expérience de l'amour que nous avons reçu de nos parents. La grâce d'être aimé précède la grâce d'aimer et la rend possible. Et puis, il y a à l'horizon la possibilité peut-être de s'approcher d'un amour universel, d'un amour sans rivage. Alors pour moi, ça n'est qu'un idéal. Je ne crois pas en sa réalité, mais en effet, ça indique une direction vers laquelle on peut au moins essayer d'avancer quelque peu.
Et c'est quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs dans toutes les grandes cultures humaines, parce que ce que veut dire le mot agapé dans la culture chrétienne, on pourra retrouver dans la grande compassion du grand véhicule
Bien
bouddhiste,
sûr.
Cette idée de compassion universelle, active, où on peut donner sa vie pour les autres, qu'on retrouve l'Elie Anvar, je crois, aussi dans l'islam. Notamment.
Oui, absolument. D'ailleurs, vous avez dit qu'on aurait mieux fait de dire mère que père. Et c'est vrai que les deux attributs majeurs de Dieu dans l'islam, c'est quand même le compatissant et le clément, qui sont des mots qui signifient en fait la matrice. Donc Dieu est avant tout un être matriciel, enfin un être par sa compassion maternelle, justement, et à ce titre, un exemple. Et c'est vrai que, cela dit, vous... Je suis quand même très gênée, en fait, par le fait que vous disiez que cet amour-là, qu'on appelle dans le sens général l'amour mystique ou l'amour divin, soit une sagesse, une façon d'aimer l'autre comme soi-même. Je ne crois pas du tout, et on le voit très bien chez Simone Veil, c'est tout de même aimer le divin en soi-même et dans les autres. Donc, que vous le dissociez à ce point de la question de Dieu, c'est vrai que je suis un peu gênée.
Je ne le dissocie que parce que je ne crois pas en Dieu. Et donc, bien que l'athée que je suis essaye de voir s'il y a dans la pensée de Simone Veil quelque chose qu'il peut conserver. Or, je crois qu'il y a quelque chose d'essentiel. Mais la vraie différence, vous avez raison, c'est quand Simone Veil écrit dans une lettre à un prêtre catholique, c'est Monsieur Sambon, qui est son correspondant, elle raconte sa vie. Et puis tout d'un coup, elle écrit littéralement ceci. Alors Jésus est descendu et m'a prise.
C'est ce que je disais avec la grâce
phrase, sans avoir en quelque chose des frissons dans le bas du dos. C'est une expérience. Alors, bien sûr, comme toute expérience intime ne prouve absolument rien, ça ne prouve pas que Dieu existe, ça ne prouve pas qu'il n'existe pas. Mais clairement, c'est une expérience que je n'ai pas faite. En revanche, l'expérience que j'ai faite, c'est celle d'être père de famille, d'avoir des enfants, d'avoir été aimé, d'aimer à mon tour, et de voir quand je lis Simone Veil, qu'elle m'éclaire beaucoup plus que bien des auteurs athées. Et donc, il faut bien essayer de voir, quand on est athée, ce qu'on peut conserver des plus grands textes, des traditions religieuses. C'est ce que j'appelle un athée fidèle.
Et puis, il y a aussi autre chose. Vous dites à un moment que vous pensez que la nature ne connaît pas l'amour. C'est quelque chose de proprement humain. Et c'est vrai que dans un sens, c'est exact. Et de l'autre, je vous ai apporté un texte de Rumi, qui est évidemment le grand penseur de l'amour dans la tradition soufie, dans lequel il explique justement qu'au contraire, ce qui fait que la vie est vie, et ce qui fait que les choses ne meurent pas et qu'elles ne sont pas réduites à néant, c'est précisément qu'elles sont habitées par l'amour. Pas une feuille ne peut sans une brise bouger. Pas un fétu de paille sans ambre ne peut s'élancer. Si pas un fétu ne peut sans le vent s'envoler, sans le vent du désir, comment un monde pourrait-il s'ébranler? Toutes les parcelles du monde aiment d'amour, et chaque parcelle d'un beau visage est enivrée. Mais ils ne te disent pas leurs états bien cachés, car aux méritants seuls se disent les secrets. S'ils n'aimaient pas d'amour, le firmament ne contiendrait pas en son sein la pureté. Si le soleil lui-même n'aimait pas d'amour, sa face n'aurait pas en elle cette clarté. Si la terre et les montagnes n'aimaient pas d'amour, les plantes de leur ventre ne pourraient pas pousser. Et si la mer n'avait eu vent de l'amour, elle aurait trouvé une attache où se poser. Toi, aime d'amour pour connaître l'amour, sois fidèle pour voir la fidélité. Ce fardeau de l'amour, le ciel l'a refusé, car il aimait d'amour, il eut peur de manquer.
Cette émission, hélas, touche déjà à sa fin. On vous écouterait pendant des heures, André Comte-Sponville. Mais maintenant, Marie Dalquier, qui prépare cette émission, nous a rejoint pour un agenda culturel. Bonjour Marie.
Oui, bonjour. Alors avec André Comte-Sponville, on s'est dit qu'il était bon de parler d'amour et de sexualité avec humour. Et donc, on a choisi de parler d'une comédie anglaise qui s'appelle Oh My God. Mais derrière le mot God, ce n'est pas le dieu créateur qui se cache, mais la création du God Miché. Alors c'est une réalisatrice anglaise, Tania Wexler, qui s'est basée sur des faits réels. En fait, au 19e siècle, les médecins recommandaient pour soigner les femmes d'hystérie une thérapie par l'orgasme, c'est-à-dire une stimulation du clitoris. Alors à cette époque, l'hystérie englobait la maladie, l'irritabilité et l'insatisfaction sexuelle. Ça nous rappelle des choses. Alors en 1800, cette pratique, elle était acceptée uniquement parce qu'elle était médicalisée. Car il était bien entendu que l'orgasme clitoridien n'existait pas à cette époque et que le seul orgasme reconnu était le plaisir vaginal produit par la pénétration d'un homme. Alors, le film raconte qu'en 1883, en pleine révolution technologique, un jeune médecin se fait malheureusement une tendinite au poignet en stimulant le clitoris de ses patientes. Alors, à la suite de cette tendinite, il va élaborer le premier God Miché qui va lui permettre de passer d'une patiente par heure à 6 patientes par heure. Alors, ce film, c'est avant tout le plaisir de voir le visage de ces femmes jouir à gorge déployée, le plaisir d'entendre des répliques comme « Mon utérus vous remercie » ou « Il paraît que les Français le font avec la langue ». Alors, c'est une comédie, c'est pas un film comique.
Et c'est donc une comédie qu'on peut voir actuellement, qui est encore en salle?
Oui, alors c'est un petit peu difficile de la voir parce qu'elle est dans de moins en moins de salles. Vous l'avez vu vous-même.
Oui, je l'ai vu il y a quelques jours, mais c'est vrai qu'il faut se dépêcher parce que les films, sauf exception, restent de moins en moins longtemps sur nos écrans.
Qu'est-ce que vous en avez pensé, André?
Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est une comédie, effectivement, qui au fond raconte l'invention, non pas du God Miché, il y en avait dans l'Antiquité, mais l'invention du vibromasseur dans l'Angleterre victorienne. Je suis allé voir comme ça pour voir, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. C'est aussi une peinture, notamment sociale, de l'Angleterre victorienne, de la misère dans l'Angleterre, du statut des femmes, ce concept un peu absurde d'hystérie dans lequel on mettait tout, finalement. Et puis, c'est une histoire d'amour. On rit, ça donne à réfléchir. Et puis, pour faire une confidence, il y a deux actrices dont je n'ai pas retenu le nom, parce que je ne retiens jamais les noms des comédiens, mais que je trouve merveilleuses. Et moi, qui suis souvent un peu réticent devant les vedettes qu'on me dit est d'une beauté sublime, qui en général me laisse parfaitement froid. Là, il y a deux actrices qui sont de vraies femmes et que je trouve à la fois d'une beauté, d'une vivacité et d'un charme vraiment extraordinaire.
Alors, moi, je trouve aussi que finalement, ce sujet, en fait, est traité avec d'humour. Il donne de la joie, mais il donne aussi le désir que les femmes se rapprochent encore plus de leur corps. Parce qu'il faut rappeler quand même que c'est qu'en 1974 que la masturbation n'est plus considérée officiellement comme une maladie sexuelle. Et je trouve que ce film nous transmet que le clitoris, finalement, qui est ce corps animal, il n'est pas seulement lié à des pulsions sexuelles ou à la maladie, mais il est aussi un moyen, et je dirais même une chance pour nous les femmes, de se connecter au plus profond de notre être. Et c'est quelque chose qu'on entend peu, souvent.
Alors, vous avez raison, c'est plus une maladie sexuelle, c'est toujours un péché pour l'Église. Vous aviez autre chose dont vous
vouliez parler? Oui, alors je voulais vous parler du blog d'Agnès Giard, qui est sur le site de Libération. Alors, c'est un blog sur la recherche sur la sexualité. Alors, il s'appelle Les 400 culs. C'est une référence à Truffaut. C'est une journaliste spécialiste des pratiques sexuelles au Japon. Et je dirais que sa force, c'est de parler de la sexualité comme d'une énigme à résoudre. Elle dit d'ailleurs, nous ne sommes pas venus sur Terre juste pour la gaudriole. Alors, je vous donne quelques titres de ces articles. Pourquoi nos désirs posent-ils problème? Pourquoi mon sexe est sacré? Ou s'embrasser, c'est s'aimer? Alors, les articles sont assez bien écrits. Ils sont aussi ludiques, intrusifs. On y trouve beaucoup de références. Et puis, elle fait part souvent d'articles ou de livres étrangers. Donc ça, c'est assez bien quand on n'est pas bilingue. Et puis, il y a pas mal de références aussi sur des expositions, des festivals ou des parutions qui sont liées à la sexualité. Ça s'appelle sexe, sexes.blog. blogs.libération.fr.
Merci Marie, merci Lélie. Merci André Comte-Sponville d'être venu nous parler du thème de votre dernier livre, que je rappelle le titre, Le sexe ni la mort, aux éditions Albin Michel.
Merci à vous.
Vous pouvez télécharger cette émission pendant une semaine et la réécouter sur notre site internet franceculture.fr. La semaine prochaine, je recevrai Pauline Depréval qui nous parlera de Jeanne d'Arc. Tout de suite, vous retrouvez le journal de 8h. Très bon dimanche à tous.